VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, le CNDD-FDD parti au pouvoir dans le pays s'en est pris violemment à la Belgique, ancienne puissance coloniale, accusée d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser ce petit pays des Grands Lacs, plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Les lobbies belges et le réseau de l'Union européenne lancent des déclarations apocalyptiques concernant un génocide au Burundi dans le seul but de protéger une nébuleuse politicienne que le colonisateur belge finance et arme dans notre pays afin de le détruire, a affirmé le président du parti Pascal Nyabenda dans un communiqué. République démocratique du Congo, dans le sud-est du pays, 8 militants du parti congolais récemment passés à l'opposition ont été arrêtés hier à Lubumbashi, des précisions avec Eddy Isango.
Selon des témoins, 8 personnes ont été arrêtées au siège du parti où les soldats ont même déchiré la grande affiche à l'effigie de Gabriel Kyungu Waku Mwanza, président de l'UNAFEC et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'armée affirme que ces arrestations résultent de la traque des membres du service d'ordre de l'UNAFEC recherchés pour avoir incendié la maison d'un dissident, ce que dénonce ce parti. L'UNAFEC appartient au G7, groupe des 7 partis dont les dirigeants ont été exclus de la majorité en septembre après avoir mis en garde les président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, contre la tentation de s'accrocher à son poste. À Kinshasa, l'opposant Joseph Olingankoy, président de FONUS, a déclaré que 3 membres de son mouvement avaient également été arrêtés le 5 novembre.
Au Congo-Brazzaville voisin, les compagnies aériennes africaines en réunion dans la capitale du pays à Brazzaville ont demandé hier que les États libéralisent l'espace aérien. Pour les transporteurs aériens africains, la mutualisation des moyens reste une action sûre pour être performant et soulager les passagers qui se plaignent quotidiennement. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Nguela Ngoussou.
35 compagnies aériennes africaines réunies à Brazzaville ont appelé à mutualiser leurs moyens de transport. Djibril Tabouret, président de African Trans Service, fait le constat.
Il y a encore un gros problème. C'est l'ère du billet électronique. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé complètement.
Une observation partagée par un usager d'avions africains.
Mais en Afrique, vous ne pouvez pas prendre un billet d'une compagnie A pour aller sur une compagnie B. Et les compagnies partent pratiquement aux mêmes heures, pour les mêmes destinations, pour les mêmes passagers. Il y a une compagnie qui sera pleine et l'autre vide. C'est ça le problème.
Mais aujourd'hui, 16 pays africains ont déjà signé la déclaration de l'Union africaine réclamant l'ouverture totale du ciel africain. À Brazzaville, la compagnie nationale Ekair réalise déjà quelques partenariats avec certaines compagnies africaines, comme le souligne ici son directeur commercial Yves Nanika.
Effectivement, la grande nouvelle, ce que nous avons annoncé donc par notre DG AC, Fatima Beïna Moussa, c'est que nous allons avoir donc ce partage de code que nous allons signer avec la compagnie Kenyan Airways, mais nous sommes aussi en phase finale de signature avec la compagnie South African Airways.
Le secteur de transport aérien reste promoteur sur le continent. La RDC vient de lancer sa compagnie Congo Airways qui affiche déjà de grandes ambitions. Norbert Singimina, le directeur commercial et marketing.
Déjà exploiter l'ensemble du territoire national, c'est un défi majeur qui ne peut être totalement satisfait qu'avec une flotte d'environ 5 avions. C'est que nous allons atteindre d'ici 1 an, 2 ans. Aussitôt que le marché domestique sera totalement desservi, nous avons les ambitions de desservir le marché régional et africain. Parce que l'année prochaine déjà, nous allons commencer les vols sur Luanda.
En 2016, toute la flotte aérienne civile du continent se retrouvera au Zimbabwe pour faire le point. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, la police a dispersé hier de manière musclée plusieurs centaines de biafrais qui manifestaient pour la libération d'un militant de la cause indépendantiste à Port-Harcourt. Le point avec Anastasie Tudiech.
À Port-Harcourt, capitale de l'État de Rivers, la police a confirmé la manifestation mais a nié les tirs de sommation et l'utilisation de grenades lacrymogènes. La police fédérale avait annoncé un accroissement des mesures de sécurité, avertissant que personne ne serait autorisé à troubler la paix de la nation. L'organisation du peuple indigène du Biafra, l'IPOB, organise depuis des semaines une série de manifestations pour réclamer la libération de Nnamdi Kanu, directeur de la station pirate Radio Biafra. Il a été arrêté en octobre. Avant cela, sa radio avait été fermée après avoir été accusé de diffuser des messages de haine. La multiplication des manifestations en faveur de sa libération ravive le souvenir de la sécession du Biafra et de la guerre qui avait fait plus d'un million de morts entre 1967 et 1970. L'ethnie Igbo, majoritaire dans le sud-est du Nigeria, se plaint d'être punie depuis la fin de ce conflit.
Afrique du Sud, 8 policiers ont chacun écopé ce mercredi de 15 ans de prison. Ils sont accusés du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain en 2013, traîné sur la chaussée par un fourgon de police. Un supplice filmé par des amateurs et qui avait suscité l'indignation. Ce fait divers qui s'est produit à Daveyton, dans la banlieue de Johannesburg, avait profondément choqué l'opinion publique grâce à une vidéo amateur qui montrait le supplice infligé au chauffeur de taxi Medo Macia, un Mozambicain de 27 ans. La suspension des vols des compagnies aériennes russes vers l'Égypte à la suite du crash de l'Airbus de Metrojet devrait se traduire par un préjudice financier d'environ 200 millions de dollars pour les tours opérateurs russes. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui une représentante du secteur. L'Égypte, constituée avec la Turquie, la destination préférée des Russes, mais aussi celle, grâce à ses bas tarifs, qui souffrait le moins de l'effondrement du marché touristique causé par la récession en Russie. On retourne à l'Afrique. L'Afrique compte sur le sommet de la Valette et la conférence sur le climat COP21 pour financer son électrification. C'est ce qu'ont souligné hier à Paris 5 chefs d'État africains. Le point avec Orzouma Compaoré.
Le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré que les problématiques de la migration et du changement climatique sont étroitement liées. En compagnie de Thomas Yayi Boni du Bénin, Alpha Condé de la Guinée, Ali Bongo du Gabon et du premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, ils ont été reçus hier par François Hollande à l'Élysée. Une réunion pour préparer la COP21 qui s'ouvre fin novembre à Paris, ainsi que le sommet de la Valette qui réunira mercredi et jeudi les dirigeants de l'Union européenne et d'une trentaine de pays africains sur la question des migrants. La désertification, l'érosion côtière, le manque de pluie provoqué par le réchauffement de la planète aggrave la pauvreté du continent subsaharien, a expliqué de son côté le président Yayi Boni. L'Afrique a aussi besoin d'électricité, a insisté le premier ministre éthiopien. 75% des Africains, soit 650 millions de personnes, n'y ont pas accès. Le coût d'une électrification complète du continent est évalué à 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans.
Actualité ici aux États-Unis, plusieurs candidats républicains à la Maison-Blanche, Donald Trump en tête, ont rejeté cette semaine toute augmentation du salaire minimum aux États-Unis, un sujet de contentieux dans la campagne électorale. De son côté, le neurochirurgien Ben Carson, également interrogé à ce sujet, a dit que s'il était élu, il n'augmenterait pas le salaire minimum. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, est allé plus loin en estimant que ce serait catastrophique pour l'économie du pays. L'augmentation du salaire minimum est un sujet de controverse aux États-Unis et est ardemment défendu par les candidats démocrates à la présidentielle de 2016, notamment Hillary Clinton et Bernie Sanders. L'opposition birmane Aung San Suu Kyi a appelé aujourd'hui à des pourparlers avec 3 des principaux dirigeants birmans au moment où les résultats partiels des élections de dimanche dans le pays créditent son parti d'une victoire historique. Une alternance historique est donc théoriquement en marche. Mais les partisans d'Aung San Suu Kyi s'inquiètent de ce que peut être la réponse de l'armée à une déroute annoncée dans les urnes. Lors des dernières élections nationales jugées libres en 1990, la junte avait laissé la LND concourir et gagner, mais les résultats n'avaient pas été reconnus. Et pour terminer, scandale du dopage en athlétisme, Vladimir Poutine, le président russe resté pour l'instant muet sur les accusations de dopage organisé qui vise la Russie, préside aujourd'hui une réunion sur les Jeux Olympiques 2016 dans un contexte explosif, à 2 jours d'une possible suspension de son pays de toute compétition en athlétisme. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.